Qui?
Ouais, là, ouais, voilà.
Moi, je peux être debout. Hein.
Qui, alors, bon, qui reste aujourd'hui?
Ouais.
Qui reste à l'émission?
Malika, elle est là. Toi, tu peux rester après moi. Avec la petite, ça sera difficile, je partirai après. Moi.
Toi, tu,
je reste un peu.
T'es avec, donc, toi, tu es avec la petite, donc tu reviens plus tard, c'est ouais. ça? Très bien. Malika, toi, tu restes?
Ah, je suis venue pour ça.
Ouais. Alors, parle dans le micro.
Pas dans le thermos.
Ah oui, non, mais écoute.
Bah oui. Patrick. On n'entend rien, cette histoire.
Mais... Non, mais il faut mettre un.
Ça ne vois-tu pas.
On met un casque.
J'arrive allez. Pas à parler.
Il y a Fabio qui est là.
Aussi
non, Fabio, je crois pas qu'il va venir. Mario, toi, tu restes l'émission.
Je vais juste parler un peu du cours d'anglais.
Du cours d'anglais.
Ouais.
D'accord. Jean-Louis.
Ben moi tout dépend. Si on m'appelle, je suis obligé de partir.
Si on t'appelle, toi si t'as une urgence.
Ouais.
Toi depuis que tu es devenu bénévole à la Croix-Rouge.
Ouais, ben c'est ça, hein, c'est embêtant. Hein.
Il y a des gens comme ça à sauver un peu partout dans le quartier.
Ouais.
Ouais. Et moi je reste un peu le début quand il y a du monde, alors je pars parce que j'ai la petite.
Et toi, tu restes ou...
Moi je vais appuyer sur quelques boutons et puis après je vous laisse.
Tu laisses continuer les autres.
Comme d'hab.
Ouais.
Non mais ça fait quand même longtemps qu'on fait cette émission, vous devriez être autonome, vous ne l'avez jamais été, je suis un peu triste. Là c'est... Alors il y a un téléphone qui sonne déjà.
Il y a quoi?
C'est toi Malika.
S'il te plaît.
Tu sonnes? C'est ton téléphone qui sonnait?
Oui, il a sonné en fait, oui.
Ok.
Et je voulais le...
L'éteindre?
Oui.
C'est une bonne idée.
Ouais, comme ça. Personne ne me...
Harcèle.
Bon ben voilà, vous écoutez Radio Maritime, vous êtes sur Radio Panique. Voilà, comme souvent, la mise en place est un petit peu longue, mais on est prêt, hein, je crois. Ça va ? On est prêt, Mario ? On y va ?
Maintenant, ouais.
Maintenant, voilà, maintenant que t'as bu, on y va. Alors, on va commencer l'émission par sortir du studio. Est-ce que vous saviez qu'il y a un artiste assez réputé dans le monde de l'art contemporain qui a travaillé, qui avait son atelier à 2 minutes d'ici ? Philippe Vandenberg, ça vous dit quelque chose ? On va aller là-bas, et puis après on va parler du projet Artco, Culture Ouverte.
Ça va? Vous avez vu, il y a 2-3 autres personnes avec nous aujourd'hui.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Ils viennent aussi visiter, parce que vous vous souvenez ce qu'on va faire aujourd'hui ou pas?
Oui, on va visiter dans une grande...
Un musée.
On a plus que été là un petit
Il est mort, il est plus vivant.
Quelques éléments de réponse.
J'ai pas bien compris.
C'est un atelier d'artiste, l'atelier de l'artiste Philippe Vandenberg, qui a eu une partie de sa vie d'artiste à Molenbeek, la dernière partie, parce que c'est ce qu'il est mort.
Un peu l'académie.
Et les enfants ont fondé une fondation qui permet de garder en mémoire et de visiter à l'occasion son atelier et ses œuvres, ses peintures. Et petit à petit, la fondation essaye de s'ouvrir un peu plus au quartier, à devenir un peu plus inclusif et à proposer sur mesure des visites comme aujourd'hui, par exemple. Mais il est vraiment méconnu, c'est dommage, parce que même dans cette toile, on verra tout à l'heure, il y a pas mal de messages et de liens avec Molenbeek.
Salut.
Salut.
C'est Johannes.
Oui, ça va.
Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe derrière les murs dans le quartier. Hein. Derrière les murs, qu'est-ce qu'il y a ici? Bam!
Ah ouais, c'est grand.
Donc ici, c'est un vieux atelier d'artistes. Vous habitez à Molenbeek?
Oui.
Ici, dans le quartier?
Oui, là, juste derrière.
Juste derrière. D'accord, très bien. Oui, parfois, on ne voit pas la rue, ce qu'il se passe hein, à l'autre côté des murs. Mais ici, donc, Philippe Vandenberg a travaillé. Philippe Vandenberg, il était un artiste, un peintre.
Je suis Johannes Muselaars et je suis responsable des collections chez la Fondation Philippe Vandenberg à Molenbeek. On est dans un ancien garage à Molenbeek, dans la rue Van der Stichle, où Philippe Vandenberg, un artiste belge, a travaillé pendant 5 années. Et nous sommes ici à l'occasion d'une visite du quartier de Molenbeek, donc je suis très heureux avec ça, d'être nouveau permis de faire des visites dans l'atelier, parce que l'atelier de Philippe doit être une place vivante, pas une sorte de mausolée, mais vraiment une place vivante où des gens peuvent regarder les œuvres de Vandenberg, peuvent discuter ce qu'ils voient. Donc oui, voilà, nous sommes très heureux que tout devienne nouveau, très, très vivante à ce moment.
Et voilà, et parfois on prend des œuvres, de plus petites œuvres ou des grandes œuvres, et on fait une présentation pour des visiteurs comme vous.
Une mini-exposition.
Et comme vous voyez, il utilisait beaucoup des mots. Hein. Est-ce que vous savez parler l'anglais?
Non.
Là, il a écrit « Let's kill the dog and let's drink the sea ». Ça se traduit comme « Tuons le chat et buvons la mer ».
C'est salé, hein?
Oui, c'est très salé. Et c'est beaucoup, hein? Philippe, quand il était petit, son père, en fait, il était bourgmestre d'un petit village à Flandre. Mais pour ses loisirs, il élevait des chats. Philippe n'avait pas une relation très bonne avec son papa. Il était très autoritaire, parfois très fâché à lui. Mais les chiens, c'était vraiment son passion. Et avec ses chiens, il participait à des concours de chiens pour le plus bel chien. Mais ça veut dire que le petit chien qui n'était pas parfait, il devait être tué. Mais c'était le jeune Philippe, il avait 7 ans, quelque chose, qui devait assister son père à tuer le chien dans un petit bain avec l'eau. Et ça a beaucoup touché Philippe. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup des références ou des textes qui font une référence à cette tragédie pour Philippe.
Il aimait les chiens?
Il aimait beaucoup les chiens, donc il n'aimait pas le tuer en fait. C'est un peu une critique contre son père qui a dit à lui « tuons le chien ». Donc c'est une critique à son père en fait. Pour lui, l'art c'était quelque chose pour vraiment réfléchir et se demander qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ou dans sa vie privée.
Toi, tu t'appelles comment?
Moi, c'est Hamidou.
T'habites où?
Ben, ici, juste à côté, en haut, dans le quartier.
Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois?
Eh ben, des couleurs mélangées. Mais je ne reconnais pas beaucoup de choses ici. Parce que c'est tout mélangé.
Et qu'est-ce que ça te fait d'être ici, dans l'atelier?
Attends, j'ai jamais vu ça. Je suis vraiment content.
Tu t'attendais à quoi quand on t'a dit que tu allais visiter un atelier d'artiste?
À une, comme une musée de dinosaures, un truc. Mais c'est joli. Je suis content.
Et là, c'est lui?
Ça, c'est lui. Avec sa dernière femme. Parce qu'il a eu beaucoup de femmes.
Ah ouais. Là aussi, c'est lui alors.
Ça, c'est lui aussi.
Il est toujours à terre?
Oui, à terre. Oui, pour dessiner, il était toujours à terre. Et là, tu sais qu'il l'utilisait pour dessiner ici. C'est rouge.
Hmm. C'est quoi, à votre avis, qu'il utilisait pour écrire en rouge?
Du ketchup.
Du ketchup? C'est une possibilité. Non, c'est son propre sang.
Son sang?
Oui. Donc, mais il ne faisait pas ça soi-même. Donc, il allait trouver une docteure, il tirait de son sang, et puis il l'utilisait pour dessiner.
Vous pouvez nous expliquer, ça sert à quoi le pistolet?
Le pistolet, donc. Ça, pistolet, c'est un faux pistolet. Mais Vandenberg voulait avoir un pistolet parce qu'il avait besoin d'un modèle. Et puis, il a utilisé ça pour peindre ce tableau. Parce que Philippe, hein, quand il a commencé à travailler, l'Internet, ça n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas aller sur Google et trouver là-bas une image d'un pistolet, par exemple. Et c'est pourquoi qu'il avait un pistolet.
Merci
d'être venu.
À bientôt.
À très vite.
Ouais.
Merci pour l'accueil.
Au revoir.
Au revoir.
Au
revoir.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique. 105.4.
Malika.
Oui.
Bon, alors moi, je t'ai vu prendre des notes. Ça t'intéresse, cet atelier? Toi, tu n'étais pas à cette visite, mais est-ce que ça t'intéresserait?
Oui, absolument. Donc, ça a l'air très intéressant, en plus, tout près, à proximité du centre communautaire maritime.
Ah oui, oui.
Et voilà, c'est intéressant, non seulement pour moi personnellement, mais pour nos groupes, par exemple, comme les groupes d'alphabétisation ou les groupes de café matin de Fatima et tout ça. Donc, j'aurais aimé d'avoir ample information. Et donc plus tard, donc tu nous en parleras un peu plus.
Et... Ah oui, parce qu'il y a Anouk.
Oui,
Anouk, qu'on entend un peu dans le reportage. Elle est avec nous. Bonjour Anouk.
Bonjour. Bien sûr Malika, évidemment. Je vais tous vous inviter.
Ouais.
Merci. Très bientôt alors.
Bah alors Anouk, puisque tu es là, explique-nous un peu le cadre. Enfin, dans quel cadre a lieu cette visite? Je pense que c'est dans le cadre du projet Artco Cultures Ouvertes.
Exactement. Alors...
Vas-y.
Arco, c'est un projet qui est à Molenbeek pour 3 années. On arrive déjà malheureusement à la fin du projet qui se terminera le 31 décembre. Mais ça consistait à développer des ateliers artistiques avec les habitants de Molenbeek, mais aussi du quartier nord de Bruxelles, autour du canal. Mmh. Et l'idée est de apporter l'art contemporain auprès des publics et des habitants et non l'inverse. On a vécu évidemment une période un peu complexe, beaucoup de choses étaient fermées, les gens étaient chez eux, donc ça n'a pas toujours été facile. Mais l'idée c'est que chaque année on était accompagné d'un artiste ou d'un collectif pour développer ses projets artistiques. Cette année on est accompagné de Home, ils sont là aussi, ils vont pouvoir vous expliquer un peu.
Bah oui, tu peux dire bonjour.
Bonjour tout le monde.
Ça, c'est Gwen, c'est ça?
Tout à fait, c'est Gwen de Home.
Et donc c'est vous qui, dans le cadre de Artco, cette année, vous avez proposé, vous allez continuer de proposer des ateliers pratiques à des habitants.
C'est ça. En gros, c'est Anouk qui est venue nous voir il y a plus ou moins un an maintenant, en nous disant que c'était la troisième année du projet qu'elle développait avec Move SBL ici à Molenbeek. Nous, c'est pas vraiment les projets habituels dans lesquels on est impliqué, donc on était intéressés, et puis ça fait longtemps qu'on aimerait... En fait, je vais peut-être commencer par le début et un peu expliquer ce qu'on fait
bah
chez
Home
et comment on s'est retrouvé là. Donc en gros, nous, on est une boîte de production basée à XL, dans les casernes, les anciennes casernes à Sioux. Et nous, en fait, on est une boîte de production dans l'art science, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire travailler ensemble des artistes et des scientifiques sur un même projet. Le projet, ça peut être vraiment n'importe quel type de projet. Ça peut être un concert, ça peut être une installation, ça peut être une performance ou une exposition. Et donc l'objectif, c'est plutôt juste que ces deux mondes qu'on considère souvent comme un peu opposés puissent trouver des synergies et s'aider les uns les autres. Voilà, on a un peu deux extrêmes. C'est un peu soit de se dire que l'art est un peu un langage universel qui permet d'un peu toucher tout le monde aime bien ce qui est beau à sa manière. Et en les attirant via l'art, on peut leur divulguer du contenu scientifique d'une manière plus détournée ou plus sexy, entre guillemets, ou moins scolaire, en tout cas moins tableau blanc écrit... Comme on peut toujours l'imaginer. Et de l'autre côté, on peut se dire aussi que les avancées scientifiques, donc notamment les avancées technologiques, permettent de développer des nouveaux outils qui, eux, permettent aussi de développer des nouvelles formes d'art qui n'étaient pas envisageables il y a 10 ans, il y a 20 ans.
On pense aux imprimantes 3D,
par exemple, les imprimantes 3D, voilà, ça permet de faire des objets qu'un sculpteur n'aurait jamais pu faire avec son...
Ou des œuvres numériques,
tout à fait.
Parce qu'il y a des GIFs ou je ne sais pas quoi qui se vendent maintenant des millions, c'est ça ?
L'art numérique, maintenant, ça devient vraiment de plus en plus gros. On peut imaginer même tout ce qui est mapping, tout ce qui va être traitement de l'image, tout ce qui va être même traitement du son. Enfin, chaque jour, on a une nouvelle technologie qui peut être utilisée à des fins artistiques et qui était complètement inimaginable la veille. C'est ça qui est intéressant.
Donc ça, c'est pour Home.
C'est ça.
Vous êtes donc responsable des ateliers pratiques, on va dire, toute cette année dans le cadre du projet Artco qui se tient à Molenbeek. Mais donc, Artco, si je comprends bien Anouk, et pour bien expliquer à Jean-Louis et Mario qui sont avec nous et qui ne sont pas les plus malins, qui ne comprennent pas très vite les choses, il faut beaucoup répéter.
C'est dur quand même ce que tu viens de dire.
Artco. Merci de tenir compte
des imbéciles. Oui, non, mais c'est, il faut essayer quand même d'être un, pour que tout le monde comprenne bien autour du studio, pour que les discussions soient un peu intéressantes. Mais donc, pendant 3 ans, vous avez mêlé des ateliers pratiques avec des habitants, mais aussi des ateliers de réflexion et de découverte de ce que c'est l'art contemporain. Et c'est pour ça qu'il y avait cette visite avec les habitants de l'atelier de Philippe Vandenberg.
Bah, j'allais le dire,
voilà,
mais t'as tout dit. C'est exactement ça. En fait, on avait la chance et l'opportunité, c'est assez unique et spécial quand même d'avoir un artiste d'une envergure. Il est peut-être peu connu, malheureusement, ici à Bruxelles, très bizarrement, mais il est d'un niveau international vraiment très connu. Il a exposé au Guggenheim, à New York, au MoMA, vraiment. Et son atelier, comme Johannes le disait dans l'interview, était ici à Molenbeek pour ses 5 dernières années. Sinon, je pense qu'il venait de Gand plutôt. Et ses 3 enfants, qui sont maintenant adultes, habitent et travaillent à Molenbeek et ont décidé de, voilà, de perdurer, de pérenniser toutes ses œuvres et de rendre cet atelier comme un lieu, comme Johannes le disait, plus ouvert, au quartier notamment. Il y a eu sa première exposition à Beaux-Arts au tout début du Covid, il y a un peu plus d'un an, et qui faisait justement un lien très fort avec Molenbeek. Donc il y a vraiment cette volonté d'ancrer ses œuvres et cet artiste au sein de ce quartier. Et je crois que ce n'est que le début, en fait, comme je vois Malika, Jean-Louis notamment, et d'autres gens qu'on a croisés ces derniers temps, qui sont vraiment envieux de découvrir cet endroit. Et d'ailleurs, il y aura 2 autres visites qui sont malheureusement pas ouvertes toutes les deux au public. On a privilégié ça pour un groupe d'enfants. Mais le mardi 21 septembre, après-midi, il y a possibilité de m'écrire, de me contacter pour...
Certains d'entre nous ont ton numéro, hein.
Oui, mais je ne vais pas le donner ici.
Non, bien sûr. Voilà.
Mais en tout cas, oui, il y aura une autre visite prévue mardi 21 septembre. Et même au-delà, hein, il suffit de contacter directement la fondation Philippe Vandenberg sur leur site ou Johannes. Et je crois qu'ils se feront une joie de vous ouvrir leurs portes.
Et alors Jean-Louis,
oui.
Alors ça va t'intéresser parce que dans les œuvres que Philippe Vandenberg a créées, il y a une œuvre qui m'a marqué, qui m'a fait penser à toi, parce que c'est fait à base de choses qu'il a récupérées sur des brocantes. Alors, depuis combien de temps existent les brocantes, la brocante Marie-Josée
Les brocantes ici, Marie-Rose, ouais,
Marie-Rose
depuis 25 ans.
Donc, il se peut que Philippe Vandenberg ait créé des œuvres grâce à toi.
Ouais,
qui est, bon, disons à mon épouse. Et à ton épouse, ouais, tu vois,
ouais, c'est fou. Parce que moi, ça fait 12 ans que je la fais.
Ouais. Tu vois, tu connaissais pas l'atelier.
Non, pas du tout.
Mais
c'est ça qui m'a étonné.
C'est fou, que c'est, dans c'est dans ta rue. C'est dans ta rue, c'est quasi à côté de chez toi.
Bah là, c'est à 200 mètres de chez moi.
C'est fou, hein.
C'est dans ta rue.
Ouais.
C'est
bah
dans
ouais,
ta rue.
Bah oui, c'est ça.
Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de ce genre de projet, en fait.
Mais comme un local dit, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien du tout. Alors tu peux passer devant.
Mais non, je passe depuis des années par là, je n'ai jamais remarqué. Bah,
moi, je passe souvent aussi, vu que la brocante, je fais au Square des Libérateurs.
Mais ça donne un peu de magie aussi, non?
Ouais, bah oui.
Mario,
c'est dommage aussi.
Mario, vous qui êtes notre artiste à nous, vous êtes un petit peu artiste, Mario. Non?
Il t'en veut aujourd'hui.
Mais non, mais c'est vrai, t'es un peu artiste, Mario. T'es un peu artiste.
Non, je me sens un peu... Ouais, je sais pas. Oui, je suis artiste, bien sûr, je suis artiste. Mais tu pas de genre...
Non, mais t'es dans cette réflexion-là. Mais...
Voilà, je me disais ce matin, est-ce que pour faire de l'art, est-ce qu'il faut faire des trucs qui dérangent? Est-ce qu'il faut faire des trucs qui sont vraiment... qui pour poser la question, parce que c'est la définition actuelle de l'art, moderne de l'art, qui dit que si on fait quelque chose d'artistique, ça doit choquer les gens, ça doit être quelque chose qui interpelle. Et moi, je ne me vois pas très bien rentrer dans cette catégorie d'artiste. Je préfère faire quelque chose qui... voilà, moi je m'exprime dans mon art, mais je n'ai pas le besoin de faire quelque chose qui dérange. Juste pour faire choquer les gens, ou juste pour faire des ventes, même dans le cas de monsieur, évidemment, puisqu'il est mort, ça ne sera plus son cas, malheureusement pour lui.
Mais voilà, tout cas, de ce que tu as entendu de cette visite, on entend quelques éléments, donc c'est l'aspect un peu...
J'aurais bien voulu voir ce qu'il fait, parce que je ne me représente pas très bien ce que tu m'as expliqué l'autre jour, c'était quelqu'un m'a expliqué qu'il faisait... à travers ses souffrances, via son père, dû à son père, dû au traitement qu'il a dû subir de la part de son père, je comprends très bien qu'il a dû être traumatisé. Et donc, son art, ça doit être un art traumatisé. Maintenant, je ne comprends pas, je ne vois pas exactement ce que ça représente dans la réalité.
C'est souvent des
ça m'intéresserait de voir, ne fût-ce que pour... Voilà. Mais bon, cela étant dit, l'art des traumatisés ne m'intéresse pas tellement.
C'est des moments d'émotion. Un artiste, il peint toujours ces moments d'émotion. À mes heures perdues, je peins, mais je peins ce que je rêve. Mais donc, ouais. Quand tu vois un peu ce que je peins, tu comprends rien du tout. Donc, c'est un peu comme dans mes rêves, un peu brouillé, comme ça. Et du coup, donc, on interprète comme on veut donc, la façon, donc, le tableau. Quoi. Voilà. Ouais.
Et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de portraits de moi.
Ce cauchemar, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a autant de nus de Jean-Louis dans ce bâtiment.
C'est pour nous, hein, donc, il peut être dans mes rêves.
Moi, je veux bien voir cette toile.
Hein. Oui, l'art doit exprimer quelque chose, soyons bien d'accord. L'art doit dire quelque chose. Si on fait que de, si on met que des couleurs sur une toile, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens.
Oui, mais après...
Est-ce qu'on s'exprime pas de toute façon intrinsèquement? On s'exprime, peu importe, d'une façon... Dès que je mets mon pinceau sur la toile, je m'exprime.
Oui.
Donc, je dis quelque chose. Même si je ne sais pas ce que je dis quelque chose.
Oui. Mais... Après, moi, j'ai l'impression que l'art contemporain nécessite souvent une explication, ce qui n'est pas toujours le cas devant d'autres courants artistiques. Et donc, effectivement, ça exprime quelque chose, mais parfois, on a besoin de clés, on a besoin de gens qui vont nous vulgariser ou en tout cas nous faire entrer dans l'univers artistique des
arts. Mais qui va te dire ce que ça veut dire?
Après, à nous.
Ouais, dans le cas, ce qui est assez particulier avec Philippe Vandenberg, c'est que si je ne dis pas de bêtises, il y a 15 000 œuvres de lui qui sont regroupées dans les ateliers ici, donc il a été extrêmement productif. Donc je crois que de ses 16 à ses 56 ans, il a fait 40 ans de travaux d'artiste. Et donc, il y a une collection qui est énorme. Et ce qui est assez vraiment aussi particulier, c'est de voir quand il a commencé des œuvres en étant assez réaliste, assez figuratif à la sortie de ses études d'art. Il peignait vraiment du portrait ou même presque des sortes de natures mortes, hein, vraiment très, très précis. Et au fur et à mesure de l'avancée, il était justement de plus en plus abstrait. Et là, en effet, il y a besoin d'avoir les yeux de quelqu'un qui l'a connu ou les yeux d'un historien. Alors, dans ce cas-là, c'est Johannes qui est le conservateur de l'atelier. Et en effet, via les informations qu'on nous donne, via les liens que lui va pouvoir faire entre son histoire et ce qu'on voit comme œuvre, ça permet de donner une explication et une valeur plus émotive, on va dire, à l'œuvre. En effet, en allant voir tout seul, c'est beaucoup plus compliqué de la saisir. Donc oui, en effet, je pense que vraiment le fait que Johannes soit là pour la visite, ça change du tout au tout la manière dont on peut apprécier l'œuvre de Philippe Vandenberg.
Mmh. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes partant pour une visite.
Oui, absolument.
Je profite de ce moment pour saluer Monsieur Patrick qui nous a rejoint.
Bonjour
Monsieur Patrick.
Vous allez bien?
Vous allez devoir partager un micro avec Malik. Sauf si vous vous installez entre Jean-Louis et Louis, là vous avez un micro rien pour vous.
Malika partage ses nuits avec Jean-Louis, elle partagera bien ses nuits toujours avec moi.
On a changé de thématique là, d'un coup.
La vie, c'est
intense.
On va vous laisser.
C'est chaud ce matin sur Radio Panique. C'est Radio Maritime, c'est comme ça. On parle des nuits de Malika.
Oui, je voulais encore dire quelque chose concernant les visites. En fait, ici, au Centre communautaire maritime, il y a un atelier Laïa. Et donc,
Initiation à l'art.
Ouais. Initiation à l'art. Et donc, ce serait bien qu'on fait une visite avec ce groupe.
J'en avais déjà parlé d'ailleurs.
À Yolanda.
Entre-temps, il y a eu le Covid.
Covid
mais
aussi.
Oui, ce n'est que partie remise.
Parce qu'en plus, Johannes disait qu'il voulait faire même plus que des visites. C'est-à-dire que même vous pourriez venir un peu travailler dans l'atelier. Ça pourrait vous inspirer.
Voilà. Il existe depuis quand, ce musée?
Voilà.
Ouais. Pas un musée, attention. Non. C'est l'atelier.
Une exposition, oui.
C'est un atelier, donc c'est vraiment là qui travaillait. Et ce qui est assez intéressant aussi, tu le verras quand tu viendras, c'est qu'ils ont voulu garder aussi les pièces, les éléments avec lesquels ils travaillaient. Donc il y a toujours son fauteuil qui est là, toujours son espace avec les peintures qui ont séché entre-temps. Donc c'est vraiment un espace un peu magique de conservation d'art, de ses œuvres. Il y a certaines œuvres qui sont mises au mur encore pour qu'on puisse les voir comme un petit musée. Il y a son bureau aussi, il y a Johannes qui est là. Une petite cuisine, une petite toilette, enfin voilà, c'est vraiment un espace de vie, pas uniquement un musée. Et j'ai oublié la question.
De combien de temps?
Exactement, je ne sais plus, mais c'est vraiment là qu'il a fait ces dernières années de travail d'artiste. Et moi, personnellement, Johannes nous a contactés, ainsi que d'autres acteurs sociaux du quartier, malheureusement peut-être pas le CSM, bizarrement. En tout cas, il y a 3 ans, plus ou moins. Donc depuis 3 ans, il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir, mais c'était compliqué. Hein, entre temps, j'insiste là-dessus, que le pauvre, les portes s'ouvraient, qu'elles se sont fermées assez vite. Donc je crois vraiment que c'est le début maintenant d'une réelle ouverture de quartier. Il va être content de voir votre enthousiasme.
Ben oui, ben on ira, on y retournera. Alors, on parle du projet Artco Cultures Ouvertes. Donc là, on a entendu le volet plutôt découverte de l'art contemporain avec cette visite d'atelier. Hier, il y avait ici même au Centre Communautaire Maritime un atelier créatif. Et Radio Maritime a glissé un enregistreur dans cet atelier. On va entendre un petit peu l'ambiance. Et puis on reviendra un petit peu sur l'objectif de cet atelier et puis ce qui va se créer avec les habitants.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Monique Vicette.
Et alors j'ai cru comprendre que vous étiez du quartier depuis longtemps ?
Oh oui, ça fait au moins 60 ans que j'habite la commune, un petit peu dans chaque coin. Mais bon, maintenant, mon dernier refuge dans la commune, c'est au boulevard McTens, voilà.
Alors je vous ai vu arriver dans cet atelier, alors est-ce que vous avez compris ce que vous devez faire et est-ce qu'on peut le faire ensemble?
Oui, c'est
là,
clair, c'est clair. Je crois qu'il y a 3 questions qui sont de très bonnes questions et qui méritent une bonne réponse.
Est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi les 3 questions? Là, ici on a des cartes devant nous, cartes
bien,
du quartier.
Oui, il y en a 3 qui sont quand même importantes. On commence par quel endroit a changé en bien.
Donc, et ça, vous savez déjà ce qui a changé en bien dans le quartier pour vous?
Oui, bien sûr, on pourrait parler en premier lieu de tour et taxi, qui à l'époque était quand même un endroit qui n'était pas amusant du tout, qui était administratif, c'était les douanes, on allait, disons, faire la queue pour réceptionner un colis et tout. Et maintenant, c'est devenu un lieu tout à fait charmant, des restaurants, de la lumière, une déco extraordinaire, des très belles expositions. On y respire, on peut franchement passer toute une après-midi sans oublier le parc que j'ignorais. Pourtant, je suis bruxelloise, mais bon, je ne savais pas. Alors j'ai découvert le parc il n'y a pas tellement longtemps. Et là aussi, il y a un comité de quartier très actif. Ils plantent, ils donnent des cours d'horticulture, enfin de tout ça. Donc c'est très très intéressant et ça vaut la peine. Ça vaut le détour.
Bah du coup, on va mettre un petit rond sur Tour et Taxi. On le met ici sur la carte. Le parc, il est plutôt par ici, je crois. Hein.
Donc Tour et Taxi et le parc.
Et le parc.
Aussi, ouais. Parce que là aussi, ce sont les habitants du coin qui s'en occupent et qui. Bravo.
Bon, alors un bon point ici sur la carte.
Oui, absolument.
Et alors, on passe à la deuxième.
Alors là, il faudrait que je réfléchisse un peu parce que.
C'est quoi la question déjà?
Quel endroit a changé en mal? C'est un fait qu'il y a des quartiers qui se dégradent au profit d'autres. Mais ça arrive aussi bien avec les quartiers que les galeries commerciales. Bon, moi, j'ai connu des galeries qui étaient superbes et puis qui, quelques années après, les magasins fermaient les uns après les autres. J'ai pas d'idée comme ça, mais ça mérite un petit peu de réflexion parce qu'avant de dire que ça a changé en mal, il faut quand même avoir de bons arguments. Et pas une simple impression comme ça quand on arrive et que effectivement tout est fermé ou il y a des papiers par terre ou tout ça. La seule chose que je trouve dommage parfois, c'est qu'on met trop de choses sur les trottoirs.
Oui, je sais.
Trop de stringles,
ouais.
Trop de chaises, trop de et pour circuler, c'est pas évident. On passe plus son temps sur la rue que sur le trottoir lui-même. Peut-être alléger un petit peu les rues, qu'on puisse au moins promener, flâner, circuler, et pas se retrouver comme ça.
Ouais. Très bien. Et alors, il y a la troisième table, avec de nouveau la même carte du quartier. Et là, quelle est la question qu'on vous pose ?
Voilà, quel lieu compte pour toi ? Eh bien, encore une fois, je peux parler de nouveau de Tour et Taxi. Mais surtout du centre maritime.
Du centre communautaire, donc il est là. Sur la carte, il est ici, rue Vandenbougheim.
Pour le côté dynamique, le côté agréable. Bon, on arrive, on est bien accueilli, on fait plein de choses. Ouais. On apprend beaucoup de choses. Et je dirais que là aussi, ça mérite plus qu'une étoile.
Voilà. Moi, je mettrais ceci, si vous le permettez. Je vais mettre un point sur cette... Est-ce que vous connaissez cette petite place-là, un peu plus bas qu'ici?
Qui s'appelle
vous avez... Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette place, mais c'est là où il y a plein de sandwichs.
Oui, bien sûr, la sandwicherie. Enfin, il y en a quelques-uns.
Il y a quelques-uns tout autour. Oui, il y a un petit sapin comme ça, un petit peu.
Oui, c'est sympa, c'est vrai. Et les commerçants sont dynamiques, c'est varié.
Il y a une boucherie.
Il y a une très bonne pâtisserie aussi.
Une très bonne pâtisserie, une pharmacie.
C'est vraiment de la pâtisserie assez fine.
Et c'est vraiment cette petite place un peu
plus
bas.
Oui, c'est là, je vois.
Moi, je vais mettre un point là parce que, en fait, même pour une raison très, très concrète. Moi, étant donné que je fréquente beaucoup le quartier, je m'alimente beaucoup là-bas. Et donc, voilà, ça compte pour moi de m'alimenter.
D'ailleurs, quand je vais en centre maritime, souvent, on s'arrête, on prend un sandwich, on mange ici. Et justement, ça vient de là.
Allez, on met un point
oui,
ici,
vous
alors.
Vous pouvez franchement mettre un point.
Oui. Et vous, monsieur, vous êtes le... Est-ce que vous êtes marié?
Oui, c'est ça.
Vous êtes marié? Depuis combien de temps?
Oh,
56 ans.
Quand on aime, on compte pas.
56 ans
Alors, 56 ans, oui.
Les 50 ans de mariage, c'est les noces de quoi, ça, vous savez? Noces d'or, je veux
dire.
Oui, peut-être.
Noces de diamant.
Non, diamant, non. C'est... Oh là là, diamant, c'est 60 ou 70 ans. Là, c'est presque pas possible. Hein. Il faut être né... Il faut se marier à 14 ans, alors, à 12 ans. Alors là, on parle d'autre chose. Hein.
Ah, mais si on serait marié un peu plus tôt, on serait presque à 60 ans. Oui.
C'était pas mal.
Et vous, vous appelez comment?
Ricardo. Je suis de Bilbao.
Ah, vous êtes de Bilbao?
De Bilbao, del País Vasco, le Pays Basque.
Vous êtes arrivé quand?
En 55.
Et vous avez tout de suite rencontré madame?
Non, un peu après. Moi, j'avais 15 ans à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui vous a plu chez elle?
La difficulté.
Le côté facette, on en fait jamais le tour, ça doit être ça. Il faut se dire que maintenant, il y a beaucoup de mélanges ici à Boulogne. Il y a beaucoup de Nord-Africains, il y a beaucoup beaucoup de nationalités. Mais quand on remonte dans les années, je dirais 60, il y avait les Italiens, les Espagnols, quelques Grecs. Et franchement, c'est un peu le côté exotique. Voilà, un peu parler une autre langue, une autre culture, la curiosité. Et aussi le fait qu'on sortait un peu de l'ordinaire hein, quand on fréquentait un Espagnol. Oh là là, c'était pas toujours bien vu. Hein. Je vous assure que c'était comme ça.
Je me doute.
Ah, ouais.
Mais à ce moment-là, enfin, mon épouse actuelle, il m'avait fait un ultimatum. Il m'avait dit, voilà, vous venez sortir, on peut se marier, mais je n'irai jamais habiter en Espagne pour y rester.
Moi, je suis
bruxelloise, je reste ici. Donc, c'était à prendre ou à laisser.
Voyager, c'est une chose, mais bon, aller s'établir là-bas, non, j'avais pas envie. Non, c'était un très beau pays, l'Espagne, très grand pays. Mais pour les vacances, je pense que mes racines sont ici. Hein. Voilà.
Merci. Voilà. Merci, je vous laisse continuer l'atelier.
Oui, ça va.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique.
Voilà pour l'ambiance hier. C'était sympa, hein?
Super chouette.
Et donc, hier au centre communautaire maritime, Monique notamment et d'autres habitants ont travaillé sur ces cartes du quartier. Et ça fait partie donc, d'un atelier créatif dans le cadre d'Artco Cultures Ouvertes, c'est ça?
Pour cette année avec Home, oui. Donc c'est une proposition de Home qui est un peu vécue comme une étape une. Donc la première étape, on est vraiment sur le terrain avec les gens, à les rencontrer, écouter leurs histoires, leurs avis, leurs réponses aux questions. On les invite aussi à dessiner, écrire, coller. Parce que l'avantage de ces ateliers, c'est qu'on a la chance d'avoir une risographie mobile, ce qui est assez rare. En général, c'est assez statique. Donc, c'est un genre d'imprimante, mais je ne vais pas en dire trop. Mais c'est un genre d'imprimante, comme on peut en voir partout, qui pèse une petite centaine de kilos. Donc, c'est pour ça que c'est rarement mobile. Mais on a la chance ici d'avoir Myriam, qui travaille sous le nom de Frohsteiner, qui a accepté avec beaucoup d'enthousiasme d'être cette personne, parce qu'elle a une machine riso, et elle est risographe et graphiste. Et elle vient d'arriver entre-temps dans le studio.
Donc alors on va lui dire bonjour.
Bonjour.
Bonjour Myriam. Alors on s'est beaucoup entraîné hier sur l'explication de ce que c'était que la machine RISO. Alors est-ce que tu peux peut-être expliquer à tout le monde quelle était cette machine qui effectivement ressemble à une imprimante mais qui est plus que ça?
Donc pour essayer de le faire bref. Le risographe, c'est une machine qui fonctionne en noir et blanc. C'est une imprimante qui fonctionne en noir et blanc sur système de principe de stencil. On l'appelle souvent la sérigraphie du pauvre, parce que ça fait exactement la même chose. C'est une machine à la base qui a été développée pour des raisons super économiques et qui se trouve généralement dans les bureaux, les prisons, les hôpitaux. Et depuis une dizaine d'années, elle a été reprise par le mouvement artistique pour plein de choses. Déjà parce que ça ne coûte pas cher d'imprimer. Toujours le même original, mais en masse. Donc voilà, pour des raisons économiques. Des raisons écologiques aussi, parce que c'est des impressions qui se font à base d'huile de soja. C'est de l'encre en base d'huile de soja. Donc ça, c'est pas mal. C'est une impression à froid. Donc une fois qu'on a créé le master, l'original, il suffit de faire une simple rotation. Par force centrifuge, on imprime. Donc on utilise très très peu d'énergie pour ça. Et après, c'est aussi important de parler du côté conceptuel de la chose. Ce qui est intéressant, c'est que la machine va créer des erreurs. Et donc, quand on envoie des fichiers numériques, généralement, on a une copie qui est vraiment similaire, qui est identique, alors que là, le multiple va être différent. On va se retrouver avec des copies qui vont être légèrement différentes par le décalage ou par la force de l'ancrage. Et donc, va créer une originalité qui est assez chouette. J'oublie de parler des couleurs, parce que la risographie permet d'imprimer en fluo aussi. Donc,
et en fait, vous avez les tambours à l'intérieur qui sont remplis d'encre de couleurs différentes, c'est ça? Et en fonction des couleurs que vous voulez mettre, vous changez de tambour?
Exactement. Donc, c'est exactement comme la sérigraphie. On travaille par passage de couleurs. Et donc, chaque fois qu'on imprime une couleur, on doit remettre le papier dans l'imprimante.
Donc il y a un premier papier qui sort avec par exemple une couche un peu bleutée, on va le remettre tout ce papier dans la machine pour sortir après une couche rosée, et puis en fait c'est comme ça, on fait de couche sur couche quoi.
Exactement, okay. La machine comprend que le noir est blanc,
ouais.
Et donc elle va comprendre les pourcentages de noir qu'on lui transmet.
Et cette année, grâce à cette machine, la création des habitants, ça va être un fanzine. Là, je me tourne vers Gwen aussi, de Home, qui encadre aussi le projet un peu créatif. C'est ça l'envie?
On est là ici sur cette première partie du projet ArtCode cette année. Donc, on fait des ateliers avec les habitants. Il va y avoir un peu deux types de production.
Ouais.
La première, c'est de jouer un peu sur le territoire. Et donc, on est vite à arriver sur l'idée de travailler sur la carte et sur une légende d'une carte. Donc, c'est un peu ce qu'on entendait tantôt dans l'enregistrement. C'était un peu les trois questions. Donc, on essaye de parler aux gens avec cette carte en support des changements qu'il y a eu dans le périmètre. Ces quelques dernières années, mais il y en a eu beaucoup en plus dans le coin ici. Donc les gens pourront venir à poser un symbole en montrant des lieux qui ont soit évolué positivement, soit évolué plutôt négativement, ou alors plutôt en représentant des lieux qui ont une importance particulière pour eux. Et en gros, donc, en répondant à ces trois questions, ils vont créer eux-mêmes une sorte de légende en fait, de la carte qui est cette carte ici du territoire. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir la risographie parce que du coup, on va pouvoir, sur le même plan de base, passer en une couleur la première légende, imaginons les lieux qui ont évolué positivement. On pourra passer la deuxième légende dans une autre couleur et la troisième dans une autre couleur. Donc en fait, ça permet de travailler avec les enfants et les habitants du quartier à comment ils représentent eux-mêmes leur territoire de manière un peu plus subjective et pas juste où sont les lieux importants, mais plutôt les lieux qui sont importants pour eux. Et donc la risographie permettait vraiment de faire ça assez facilement et avec un rendu aussi plus artistique et peut-être même contemporain. Et donc je crois que c'est pour ça aussi qui a intéressé le projet.
Là, on voyait hier tout le monde découpé, collé. C'est autre chose que de d'imprimer ou de faire un truc par ordinateur. Enfin, là, on était sur des tables, ça bricolait, c'était chouette. Enfin, j'imagine que c'est une des volontés du projet, c'est qu'on sente un peu la manipulation des...
C'est ça. Et ça, c'est un peu la deuxième partie du projet qui est l'élaboration de nouveau avec les habitants d'un fanzine où là, on va plutôt faire une sorte de recueil en une quinzaine de pages. Un peu de tout ce qui s'est passé durant le projet ArtCo. Donc on va représenter les lieux qu'on a mis en avant, les ateliers qui ont eu lieu, ceux qui auront lieu par la suite. Il y a une petite page sur la riso, tout plein de contenus différents qu'on développe de nouveau avec la rhizographie. Donc là, on fait des collages avec les enfants, on remplit des pages A4, on vient rhizographier tout ça et on va faire ça dans un petit bouquin qu'on va sortir à une centaine d'exemplaires.
Certains seront disponibles au Centre communautaire maritime.
Tout à
j'espère.
Fait, bien sûr.
Myriam, un mot sur cet atelier d'hier ou même sur la rhizo en général ?
Oui, sur la rhizo en général, ce qui est intéressant, c'est que on peut travailler un projet, donc de la création du projet jusqu'à la production de l'objet. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai été invitée par Home à participer aux ateliers. Et c'est aussi quelque chose qui est très, très, très accessible. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé, pendant tous ces ateliers, de produire le fanzine avec les participants. Mmh. On a commencé hier à faire la mise en page, à travailler sur l'imposition, parce que voilà, il y a certaines complexités à faire quand on fait un fanzine. Donc voilà, on le travaille avec les enfants, avec les adultes, avec toutes les personnes qui sont intéressées à le produire. Et c'est ça qui est excitant. Et donc, on ne sait pas du tout quelle forme le fanzine va avoir
final,
parce que, exactement.
Oui, parce qu'il y a encore des ateliers cet après-midi, je crois,
oui.
Et vendredi.
C'est ça. Donc, c'était le 1, 2, 3 septembre au CCM, ouais. L'après-midi, de 14 à 18 heures. Et que vous ayez tout l'après-midi ou juste une demi-heure ou 10 minutes, c'est accessible aussi. C'est assez simple. On peut juste passer ou revenir à chaque après-midi.
Pour moi, ce sera vendredi.
Vendredi, Malika.
Okay. Parfait.
Ah ben voilà, Malika.
C'est noté, hein, tu viens.
Avec grand, grand plaisir.
Monsieur Patrick. Alors, vous êtes là en train de patienter depuis un moment.
Gentiment. Hein.
On va dire que vous rongez votre frein.
Non.
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout. Vous avez des choses à dire ?
Je suis encore époustouflé par le lien que vous avez fait entre cet artiste, Monsieur Philippe,
oui.
Et la brocante Marie-Rose.
C'était
un rebondissement dramatique, je n'en reviens pas encore.
C'est un métier, Monsieur Patrick, tout comme celui d'appuyer sur un bouton pour lancer votre jingle.
Franchement.
Musicoteur à Freud.
Illustration musicale d'un événement, d'un moment ou d'un état d'âme. Chaque semaine, Patrick Serin va piocher dans l'immense musicothèque mondiale.
Allez-y.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, LGBTQ+, Patrick Juvet, les frères Bogdanov, maman, jour. Oui, oui, j'ai bien dit jour et pas bonjour. Où voulez-vous que j'aille trouver un bonjour depuis la dernière fois où je me suis exprimé à ce micro ? Récapitulons en quelques phrases bien senties. Footballiste, payé des millions ? Chaos. Intempéries et inondations en Wallonie. Météo estivale chaotique. Ça brûle ou bien ça mouille. Variant Delta. Les complotistes. Tremblement de terre en Haïti. Souris en Australie. Tempête en Louisiane. Évacuation de l'aéroport de Kaboul. Et nouvelles soldes sur les droits des femmes. Souhaitez-vous que je continue ?
Vous êtes ici chez vous, faites ce que vous voulez.
Vous comprendrez aisément qu'il me soit difficile de vous souhaiter le bonjour sans craindre qu'il ne vous arrive une bricole dans la demi-heure, ou que je sois capable d'écrire un billet d'humeur, voire de bonne humeur, en ce jour de rentrée scolaire pour les ados. Ma tâche devenant de plus en plus compliquée, je crois qu'il est vraiment l'heure de revendiquer une augmentation de salaire auprès de M. Thibault, qui me rémunère au lance-pierre, lance-pierre qu'il avait lui-même hérité d'un taliban repenti et qu'il ne comptait plus s'en servir sur sa femme commise d'office à l'âge de 13 ans. Finalement, les miracles existent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, si l'on veut se saper le moral en 2 minutes, il y a de la matière à disposition. Cela étant dit, si l'on regarde en dessous de cette première croûte purulente, si l'on va voir dans les petits recoins et que l'on dépasse la frayeur provoquée par le regard jaune d'une petite souris australienne qui s'y serait planquée, on peut trouver de quoi alimenter son optimisme. Les collectes de dons pour les sinistrés des inondations, la moisson de médailles belges au JO de Tokyo, ainsi que celles que les athlètes paralympiques sont en train d'engranger, la naissance d'un gorille dans les Virunga, et le possible retour du groupe ABBA. Bref, oui, vous aurez compris. Oui, Malika, les soirées années 70, c'est bientôt pour toi. Bref, vous aurez compris où je veux en venir. Tout est affaire d'équilibre entre les bonnes influences et les mauvaises. Je terminerai cette mini-chronique de rentrée avec cette phrase de Jean Piaget, le célèbre biologiste, psychologue et j'en passe, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie du développement de l'enfant, et qui disait ceci: « La tendance la plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l'équilibre. » Gageons que cette petite phrase nous guide à l'avenir. À bientôt, les petits amis. Ouais.
C'est sympa, on est bien là, dans Radio Maritime, on est ensemble jusqu'à midi, il nous reste 10 minutes, alors c'est parti, c'est le moment où vous vendez vos trucs les gars. On commence par Jean-Louis.
Ouais, il n'y a pas de problème.
Ah bah voilà, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine?
Voilà, samedi...
Jean-Louis, il va dire 39 minutes quoi.
Alors, non.
Samedi le 4, il y a la brocante au Square des Libérateurs.
Samedi 4, ouais.
Samedi 4, samedi qui arrive.
Ouais.
Ça me dit rien moi le samedi 4.
Oh, comment ?
Ça me dit rien, le samedi 4.
Non, là, c'est le moment où on utilise la rotation.
Oui, mais
en fait.
Tu vois, tu as tort parce qu'il y a des artistes qui viennent. Et ils font des objets d'art.
Tu vois ? Voilà. Bon, donc, samedi 4, brocante, ouais. Square des Libérateurs.
Voilà,
ensuite,
pour les renseignements, c'est le 0471 13 45 83. Jean-Louis.
Et c'est marrant, parce que c'est aussi le numéro pour les trucs érotiques.
Ouais.
C'est le même numéro.
Exactement, c'est le soir que je fais ça. Dans la journée, c'est la brocante et le soir.
Ok.
Bah, tu connais pourtant.
Bah oui, mais c'est ça.
Ouais, oui.
J'ai une note de téléphone cet été. Bon, continue alors, le 4.
Le 4, bon, il y en aura une le 19, mais je venerai en parler.
Oh, bah, la semaine prochaine.
Ouais, voilà.
Oui, Malika, tu as aussi des trucs à vendre.
Oui, plus ou moins. Donc, les inscriptions pour les cours d'alphabétisation, c'est le 13 et le 14 septembre de 10h à 16h au Centre communautaire maritime.
D'accord.
Entre autres,
oui.
J'ai un groupe, les Marinelles, un groupe de chorale, et on a un petit événement que j'en parlerai la fois prochaine, si tu veux, pour le 19 septembre, quelque part ici dans le quartier.
Bah, pendant, ah oui, d'accord, ouais. Oui, pour la fête du quartier.
Ouais, c'est ça. Voilà, pour la quête du quartier, mais pas dans le quartier. Dans le quartier, mais.
Pour débarquement immédiat. Alors, je vais essayer de faire venir le.
Mais il n'y a pas de débarquement immédiat.
Mais oui. Non, il n'y a pas embarquement, mais il y a débarquement.
Ouais.
C'est débarquement cette année. On va débarquer.
Et donc, ouais, les marinelles vont débarquer, très bien.
Oui, exactement.
Parfait. Parfait. Monsieur Patrick, la rentrée scolaire, l'école de devoirs, tout
on
ça,
s'en comme, fiche on royalement. S'en fiche. J'envoie un message à Carmen, en fait. Parce que je tiens à lui dire que mes grands-parents se sont mariés à 20 ans. Et qu'ils ont fêté...
Monique.
C'est Monique.
Monique. C'est pas Carmen, moi je l'aurais imaginé.
Non, c'est Monique.
Alors, message à Monique.
Mes
grands-parents viennent de fêter leurs 71 ans de mariage.
Ah. Ouh là là.
Et donc, il suffit pas de se marier à 13 ans, comme l'a dit perfidement son compagnon espagnol, mais à 20 ans et ça suffit.
À 20 ans, mais il faut vivre vieux.
C'est ça. Hein.
100 ans.
Tout le monde n'a pas
cette
opportunité-là. Ouais.
Leur méthode à eux, un petit verre de pinard tous les jours. Hein.
Le matin ou le soir?
Le soir, mais ça marche.
D'accord.
Et des boules caisses.
Non, mais si
voilà.
Ça marche, c'est bien.
Bah, si ça marche, un verre de pinard.
Fidèle au poste. Ouais.
Moi, c'est un régime qui me va.
Un verre de pinard tous les jours. Hein.
Voilà.
Mario, il semblerait qu'il y ait des cours d'anglais.
Oui, alors je voulais annoncer qu'il y aurait possibilité pour des gens de n'importe quel niveau d'avoir des cours d'anglais. C'est pas vraiment des cours d'anglais, c'est plutôt des comment j'appellerais ça? Parce que le formage n'en est pas encore décidé dans ma tête, mais ça dépendra... largement du niveau.
Du niveau. Des tables de conversation, on pourrait dire.
Non, ça pourrait être, par exemple, des tables de conversation. C'est une formule possible, parmi d'autres. Voilà, à réfléchir. En tout cas, pour celles et ceux qui seraient intéressés à venir au CCM, appeler le CCM, venir vous voir, venir me parler. Moi, c'est Mario.
C'est ça, 5 voilà. O'clock tea time.
Voilà, j'ai un bon nom anglais, vraiment le nom chic anglophone, Mario.
Un numéro de téléphone, si tu veux.
Voilà, c'est ce que je voulais annoncer.
Tu as le numéro de téléphone?
Ah oui.
Il est là.
Le numéro de téléphone du CCM?
Ouais,
ouais.
02, alors le numéro du CCM, c'est donc 02 421 16 00 02 421 16 00.
Et là, vous aurez
l'accueil. Vous aurez Denise, la belle réceptionniste du CCM en ligne.
Et de toute façon, comme on l'a dit en début d'émission, il faut passer des portes, venir voir les gens.
Au 93, rue Bande de Longarde.
Et je voulais dire que je suis parfaitement quadri-pentalingue. Oui.
Ouais, voilà. Voilà. Et ça se vante. Ça
va aider, mais en tout cas, ça peut vous aider de vous conforter. Voilà, je parle le néerlandais,
ouais.
Et l'anglais, et le français. Voilà.
Eh ben voilà.
Plus ou moins.
Eh ben, très bien.
Bien.
Le luxembourgeois sous la menace seulement.
Luxembourgeois aussi.
Et l'allemand.
Et l'allemand. C'est parfait. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui parlaient plein de langues. Anouk, Gwen, Myriam, donc pour revenir un tout petit peu sur le projet Artco, puisque finalement, vous êtes nos invités, on va quand même encore un petit peu parler avec vous. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir encore?
Bah alors la suite, ça va être la fin de l'atelier au CCM, donc aujourd'hui cet après-midi de 14 à 18, ainsi que demain de 14h à 18h aussi. Ensuite, on va faire un atelier avec des enfants de Pôle Nord, donc celui-là ne sera pas ouvert au public, donc ça ne sert à rien de venir, mais comme ça tout le monde le sait.
Ouais.
Et ensuite, on aura encore... un atelier, deux jours d'atelier à la ferme du parc Maximilien, donc le 24 octobre de 15h30, septembre de 15h30 à 18h30 et le 25 septembre de 10h à 16h30.
Oui, donc l'idée c'est de traverser le canal.
il y a aussi cette volonté-là qui est un peu complexe, mais l'idée vraiment c'est de passer d'un bord à l'autre. Donc on vous invite à aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'eau et on fera pareil avec les participants rencontrés du côté 1000 Bruxelles.
Mais tiens, puisque le projet s'est tenu sur, s'est tenu sur 3 ans, et là qu'on est dans la dernière année, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir des autres années? Est-ce qu'il y a eu des créations qu'on peut encore voir, qui ont eu lieu la première et la deuxième année, ou c'est compliqué?
Alors la première année, c'était un collectif d'architectes appelé Alive Architecture, ouais, qui ont fait seulement quelques mois, parce que le projet a commencé un peu sur, rapidement. Ils ont fait une fresque en plusieurs langues avec des apprenants en alphabétisation qui a été collée sur un mur, qui a ensuite disparu avec la pluie. Donc, il ne nous reste plus que des photos.
Le mur a disparu ou les écritures?
Le papier qui était collé sur le mur. Après, ce n'est pas vraiment une déception, c'était plutôt aussi au niveau écologique, il n'y avait pas spécialement une volonté de faire ça un peu plus... le deuxième projet, c'était un artiste marcheur appelé Jérôme Gillère, qui a vécu en plein, lui, les fermetures, ouvertures, du Covid. Donc, il a vraiment jonglé d'un mois à l'autre en étant dans la tente et puis travaillé avec des habitants un peu anxieux et dans la peur, finalement, parce qu'au tout début, on n'avait vraiment aucune information par rapport au Covid. Et donc pour le moment, en tout cas, il n'y a encore rien à découvrir comme résultat du côté de Jérôme Gillère, mais ça ne saurait tarder.
Très bien. Myriam, Frau Steiner, voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre? Merci Jean-Louis. Jean-Louis a la technique aujourd'hui.
Ouais. Je sais qu'elle aime bien, c'est pour ça.
Est-ce qu'on peut faire appel à la rhizographe? Une rhizographe? Un rhizographe?
Feuse.
Rhizographeuse?
C'est jolie, rhizographeuse. Hein.
C'est comment c'est un ou une?
On va dire une rhizographeuse.
D'accord. Ouais. Alors, on peut vous contacter, on peut vous trouver et faire appel à vos services si on voulait créer des choses comme ça en atelier ou même nous-mêmes faire des cartes postales, par exemple.
Oui, complètement. Donc, j'ai un service d'impression et on peut me contacter sous frausteiner.be. Et puis, si vous êtes en allemand, exactement. Et si vous avez envie d'avoir une rhizo sur place, à ce moment-là, vous pouvez...
Il faut venir avec des bras pour porter ce truc énorme.
Non, j'amène l'imprimante. Carrément. Oui, c'est une imprimante mobile.
D'accord.
Et vous pouvez me trouver sous rhizoparty.be.
Ok. Et pour le collectif Home, qui encadre cette année les ateliers créatifs du projet Artco Cultures Ouvertes, on vous retrouve où sur Internet, j'imagine?
Ah bah alors sur home.be, mais pas home comme la maison, donc c'est ohme.be. Mmh. Et les deux grandes prochaines actualités, ça va être l'Expo Fast, donc c'est une exposition sur la place des femmes dans les sciences et technologies qui va avoir lieu à l'ULB et dont le vernissage se fera le 13 septembre. Et ensuite une exposition de 3 mois au Hall Saint-Géry, dont le vernissage sera le 7 octobre. Et cette exposition-là, ce sera sur des travaux académiques de recherche qu'on a coordonnés avec Home, où des étudiants de recherche graphique et visuelle de la Cambre doivent essayer de vulgariser une thèse de Polytechnique.
D'accord.
Et voilà, ça fera l'objet d'une expo de 3 mois au Hall Saint-Géry.
Anouk, vas-y.
J'ai oublié d'ajouter que, en effet, on a une page Facebook pour le projet Arco, Culture Ouverte, et donc n'hésitez pas à venir voir, on y mettra les dates des prochains ateliers, et c'est un moyen facile pour nous contacter aussi, également.
Parfait. Tout le monde a dit tout ce qu'il devait dire.
Oui,
c'est déjà fini, Monica.
Oh, là.
Non, mais ça passe vite.
Oui, encore 2 minutes.
Ça dépend des horloges, parce que nos horloges ne sont pas... A priori, on est peut-être déjà coupé.
Ah oui, t'as raison.
C'était Radio Maritime, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les jeudis, de 11h à midi, sur Radio Panique. Merci à tout le monde.
Merci
à tout le monde.